Chapitre 15. Madame de Saulier et son père se trouvaient depuis 8 jours les hôtes du prince Mixa. Tous deux étaient tombés en admiration devant les merveilles de Voraxi. Lui avait peine à s'arracher de la bibliothèque et de la galerie qui contenaient d'inappréciables collections. Elle parcourait les pièces de réception, se grisant de ce luxe artistique, déplorant, avec Irène et quelques autres mondaines, que l'on ne put décider le prince Arpad à donner quelques-unes de ces merveilleuses fêtes qui avaient réuni ici, du temps de la princesse Alexandra, la noblesse hongroise et autrichienne. Il parle maintenant de n'en pas offrir, même à l'occasion de la visite de l'archiduc, disait Irène. Il paraît s'assombrir depuis quelque temps. Et il est impossible de vaincre sa volonté, ajouta la vicomtesse d'un ton vexé. J'ai bien essayé d'insinuer que je serais charmée de voir une de ces fêtes, mais il m'a répondu très froidement qu'il n'avait plus le goût des grandes réunions mondaines. Je n'ai pas osé insister, car franchement, comtesse, votre frère est très intimidant quand il prend cet air-là. « À qui le dites-vous ? » murmura Irène avec une sourde colère. « C'est vrai, ma chère comtesse, vous ne paraissez pas être dans ses bonnes grâces. » Il n'est pas précisément aimable pour vous, je l'ai remarqué. Oui, et à cause de cette Myrtot, dit Irène avec une sorte de rage. Comment cela ? Interrogea la vicomtesse avec un empressement curieux. J'ai montré trop franchement mon peu de sympathie pour elle, cela suffit pour que je sois bonne à pendre aux yeux du prince qui ne voit plus au monde que sa cousine. Elle a pris sur lui l'influence que possédait le petit Caroli, mais une influence bien augmentée, car il résistait à l'enfant et lui imposait à l'occasion sa volonté, tandis qu'il ne refuse rien à Myrtot. Ah ! Elle n'aurait qu'un mot à dire, elle, pour obtenir toutes les fêtes qu'elle voudrait. Mais elle s'en garderait bien, parce qu'elle sait que c'est son affectation de simplicité, de sérieux et de piété, qui a pris au piège le prince Mixa. La jeune veuve secoua la tête. « Affectation est de trop, comtesse. Malheureusement pour vous, mademoiselle Eliani est sincère, admirablement sincère, et c'est ce qui fait sa force et son charme irrésistible. Voyez-vous, il n'y a guère à espérer que le prince Mixa change d'avis, je m'étonne seulement que leur fiançailles ne soient pas déjà chose accomplie. Il ne s'agit peut-être, après tout, de la part du prince que de témoignages de reconnaissance exagérés pour ce qu'il croit devoir à Myrtot. » Madame de Saulier eut un sourire ironique. Ne cherchez pas à vous bercer d'illusions, comtesse. La reconnaissance n'a que fort peu à voir dans les sentiments de votre frère à l'égard de sa cousine. Vous avez certainement, aussi bien que moi, remarqué la transformation de son regard lorsqu'il se pose sur elle, l'intonation particulière de sa voix lorsqu'il s'adresse à elle. Hier, je ne sais à quel propos, une ombre était tombée sur sa physionomie, un pli barrait son front. Sa cousine entre, elle le regarde. Quels yeux admirables elle a, si profonds et si pleins de lumière. Aussitôt, plus d'ombre, un visage soudain éclairé. Autre symptôme, il s'assombrit chaque fois qu'il voit s'empresser près d'elle le comte Giza ou Mieli Donax, votre jeune et déjà célèbre poète national qui a chanté Mademoiselle Myrtot en des vers délicieux. Enfin, maints détails m'ont révélé, depuis ces 8 jours, ce que vous savez aussi bien que moi, l'amour profond, souverain, du prince Mixa pour sa cousine. En remontant dans son appartement, après cette conversation avec Irène, la vicomtesse songeait, un sourire moqueur aux lèvres. « Hein ! La petite comtesse est furieusement jalouse de sa cousine. Elle a de la chance, cette jolie Myrtot. Elle aura vraisemblablement à choisir entre le poète, le comte Giza et le prince Mixa. Naturellement, ce sera ce dernier. » Les lèvres de Madame de Saulier eurent un pli d'amertume, tandis qu'elle murmurait « Il est si bien et si parfaitement grand seigneur, princesse Mixa est une fortune fabuleuse, mais il est inutile de lutter contre elle, je l'ai compris dès le premier jour en voyant cette créature ravissante de corps et d'âme. J'attendrai la visite de l'archiduc, puis nous quitterons aussitôt cette demeure, car il me sera dur, très dur, de rester ici sans espoir. » Myrteau, assise devant son petit bureau, venait d'achever d'écrire aux dames Millon. Et maintenant, un peu renversée sur sa chaise, elle laissait son regard se perdre dans la profondeur bleue de l'horizon qui lui apparaissait par la fenêtre ouverte. Elle éprouvait depuis quelque temps un peu de lassitude, morale surtout. Malgré tout, une atmosphère de mondanité régnait à Vauraxy, et elle y avait été jusqu'ici si peu accoutumée qu'elle en ressentait à certains instants une sorte de fatigue. Elle réussissait à la dissimuler, sauf peut-être au coup d'œil perspicace et toujours en éveil du prince Milza, mais ici, elle laissait ses nerfs se détendre et son esprit se reposer dans une songerie paisible. Elle pensait à ses chers pauvres, au vieux Casimir qui allait mourir, à la petite Marcra, dont la frêle santé serait bientôt remise grâce à la générosité du prince Arpad. Et une ombre voilait ses yeux, tandis qu'elle songeait aux plis soucieux, remarqués depuis quelque temps sur le front de son cousin, à sa visible préoccupation, à une sorte d'angoisse traversant parfois son regard. Il souffrait toujours, il luttait sans doute contre ses déchirants souvenirs. Un coup léger, frappé à la porte, la fit un peu tressaillir. C'était la comtesse Zolanihi, l'air émue et ravie. « J'ai à vous parler, ma chère enfant, » dit-elle en se laissant tomber sur un fauteuil, après avoir fait signe à Myrteau de ne pas se déranger. « Je viens ici en ambassadrice, ou plus exactement, je remplace votre mère. Il s'agit, en effet, de deux demandes en mariage. » Myrteau eut un vif mouvement de surprise et son teint s'empourpra un peu. « Des demandes en mariage, pour moi ?» dit-elle d'un ton incrédule. « Mais oui, pour vous. Pourquoi semblez-vous si étonnée ?»« C'est que je suis sans dot, ma cousine, et je croyais... » »« Il y a encore des gens désintéressés qui apprécient la beauté morale et physique au-dessus de l'argent. » Le prince Milza a reçu la confidence de Mieli Donats et il m'a chargé de vous présenter la demande de ce jeune poète, déjà une de nos gloires nationales, et qui souhaite ardemment vous faire partager les honneurs qui l'attendent. C'est un noble caractère, vous avez pu le juger du reste. Déjà riche, il appartient en outre à une vieille et honorable famille, et il est excellent chrétien. Oui, je le sais, et j'estime profondément ses grandes qualités, murmura Myrteau. Pourquoi, soudain, une tristesse étrange, une mystérieuse angoisse l'envahissait-elle? L'autre demande m'a été faite par le comte Giza. Vous avez pu, lui aussi, l'étudier et le juger. C'est un charmant garçon, riche, suffisamment sérieux, très estimé comme officier. Il vous admire et vous aime, Myrteau, et son oncle, qui lui a servi de père, lui donne son consentement après m'avoir écrit à ce sujet. Myrteau, un peu pâle maintenant, baissait les yeux en froissant d'un mouvement inconscient ses petites mains sur sa jupe blanche. « Je ne vous demande pas une réponse immédiate, mon enfant. Vous réfléchirez tant qu'il vous plaira, » continua la comtesse. « Vous choisirez en toute indépendance et je crois que l'un ou l'autre de ces deux parties eût été pleinement approuvé par votre mère. » Myrteau leva les yeux, elle dit d'un ton calme et résolu « Je crois, ma cousine, qu'il est inutile de laisser M. Donats et le comte Giza dans l'incertitude, du moment où je suis certaine, demain comme aujourd'hui, de leur répondre par un refus. Myrteau, est-ce possible ? Balbutia la comtesse. Il faut absolument réfléchir, mon enfant. Que leur reprochez-vous ? Voyons. Rien ? Oh, rien ! J'admire leur désintéressement, vous le leur direz en les remerciant. « Mais je dois vous avouer, ma cousine, que mon cœur est complètement froid à leur égard. »« Petite ingrate, eux qui vous aiment tant, ce pauvre Mathias, vous voulez donc le désoler, Myrteau ?»« J'en suis au regret, mais il se consolera, ma cousine, et il est plus loyal de lui enlever dès maintenant tout espoir. »« Je n'ose insister, mon enfant, du moment où votre cœur ne parle pas, je comprends. » mais je suis peinée du chagrin que je vais lui causer. Moi aussi, dit Myrteau avec émotion, mais cependant, il m'est impossible d'agir autrement. Pardonnez-moi, ma bonne cousine, l'ennui dont je suis cause pour vous. Je n'ai rien à vous pardonner, ma pauvre petite. Je regrette seulement que vous ne puissiez trouver votre bonheur dans l'un de ces excellents partis. Allons, mignonne, embrassez-moi et n'en parlons plus. Mathias partira ce soir, vous n'aurez pas ainsi l'embarras de le revoir. » Elle baisa le front de la jeune fille et s'éloigna. Quelques instants, Myrto demeura immobile et songeuse. La bizarre angoisse ressentie tout à l'heure ne s'évanouissait pas. Pourquoi la communication de la comtesse Gisèle lui produisait-elle cet effet, puisque la demande de ces deux jeunes gens, si flatteuse qu'elle fût pour une jeune fille sans fortune, la laissait entièrement froide? Myrto se leva d'un mouvement résolu. Elle était accoutumée à réagir contre les impressions vagues, à ne pas s'engourdir dans d'inutiles rêveries. Ayant jeté un coup d'œil sur sa coiffure, elle descendit, car l'heure du thé approchait. Au lieu de gagner directement le salon des princesses, où se réunissaient à cette heure les hôtes du château, elle entra dans le salon de musique pour chercher une berceuse, œuvre du prince Mixa, qu'elle avait jouée la veille avec lui pour la première fois, et qu'elle souhaitait revoir seule tout à son aise pour en mieux détailler les délicates beautés et la pénétrante expression. Près d'une des portes-fenêtres ouvrant sur la terrasse, Irène se tenait debout, les traits durcis et le regard sombre. Elle enveloppa sa cousine d'un noir coup d'œil et dit d'un ton sifflant « Eh bien, il paraît que vous faites la dédaigneuse, mademoiselle Eliani. Un Mielidonas, un comte Gisa ne vous suffisent pas? Vous rêvez sans doute mieux que cela ?»« Je ne rêve rien du tout, » répliqua froidement Myrto. « Je n'ai jusqu'ici jamais beaucoup pensé au mariage, étant si jeune encore et sachant que mon manque de dot pourrait être un obstacle. Mais ce que je sais, c'est que M. Donaz et le comte Gisa, malgré leurs très réelles qualités et l'estime dans laquelle je les tiens, me sont trop indifférents pour que j'aie eu un seul instant d'hésitation. » Irène eut un petit rire bref et sardonique. C'était bien la peine, vraiment, qu'il vous entoure de tant d'hommages, que Mielidonas chante la jeune grecque et ses yeux de lumière, que le comte Mathias délaisse pour vous le château de son oncle, où l'on donne des fêtes si exquises. Vous êtes un cœur de marbre, Myrto. » Elle rit de nouveau et s'avança lentement vers le milieu du salon, tandis que Myrto, dominant l'impatience irritée qui la gagnait, se penchait vers un casier à musique. « Enfin, à défaut de votre mariage, je crois que nous en aurons un autre, » continua tranquillement Irène. « J'ai idée que le prince Mixa, il vient de s'en aller du côté des serres avec Madame de Saulier, soi-disant pour lui montrer je ne sais quelle plante qu'elle désirait connaître. Mais il semblait très ému, très anxieux. Je pense, Myrto, qu'il y aura ce soir une fiancée à Voraxi. » Myrto se redressa brusquement, aussi blanche soudain que sa robe, ses yeux un peu dilatés se posèrent sur Irène. « Elle ? Oh, vous croyez ? » dit-elle d'une voix étouffée. « Mais certainement, pourquoi semblez-vous si étonnée ? Ne fera-t-elle pas une charmante princesse ? Elle est fort gracieuse et si intelligente. Je m'explique maintenant le séjour du prince à Paris et sa transformation si complète. » Mais pourtant, il ne paraissait pas, et il est plutôt froid avec elle, et elle est très mondaine, dit Myrto. Sa voix lui paraissait étrange, comme très lointaine, une sorte de brouillard passait devant ses yeux. Oh, il saura l'habituer à ses goûts, et comme elle en est fort éprise, elle se pliera volontiers à ce qu'il voudra. Je pense qu'il sera très heureux et nous aurons une aimable belle-sœur qui égayera tout à fait cette demeure. » Myrto se pencha de nouveau vers le casier et attira à elle, au hasard, quelques morceaux de musique. Irène l'enveloppait d'un regard de satisfaction méchante. Elle semblait noter la pâleur de ce teint admirable, le frémissement des petites mains dont la forme idéale et la finesse avaient si souvent fait son envie. Mais un appel de sa mère lui fit quitter le salon. Myrto remit alors en place les morceaux qu'elle feuilletait machinalement, ne se souvenant même plus de ce qu'elle cherchait. Elle sortit sur la terrasse, descendit les degrés et, toujours machinalement, se dirigea vers le parc. Les paroles d'Irène bourdonnaient singulièrement dans son cerveau. « Je crois, Myrtot, qu'il y aura ce soir une fiancée à Voragzy. Jamais elle n'aurait pensé, non, jamais. » Pourquoi donc cette supposition d'Irène l'avait-elle si profondément surprise et troublée? Il n'y avait cependant rien d'étonnant à ce que le prince Mixa, guéri de sa longue crise morale, cherchât à se refaire à l'intérieur. Seulement, il semblait bizarre qu'il eût choisi cette jeune femme très mondaine. Il avait été séduit, sans doute, par son intelligence, par la vivacité de sa physionomie et le piquant de son esprit, par les délicates flatteries qu'elle ne lui ménageait pas. Cependant, il se montrait simplement pour elle, comme pour tous les hôtes féminins de Voragzy, un maître de maison très courtois, sans rien de plus. Aucun empressement, aucune sympathie même. Mais il n'aimait peut-être pas laisser voir ses sentiments, il les ferait connaître seulement à l'élu. Myrtot s'en allait comme en un rêve, les pensées s'entrechoquaient dans son cerveau. Elle se trouva tout à coup devant le temple grec, elle gravit les degrés et s'arrêta sur le péristyle. Elle se trouvait près de la colonne où il était appuyé, au moment où allait se consommer son crime. Et la pensée de cette scène, de l'émotion poignante de ces instants, saisit Myrtot, l'envahit, la pénétra de douceur et d'amertume immense. Elle ouvrit la porte du temple. Une aïeule du prince Arpad avait fait de l'intérieur un sanctuaire dédié au saint patron de la Hongrie. Leur effigie était là, taillée dans le marbre. Entre tous, Myrtot vénérait la sainte duchesse de Thuringe et ce fut devant elle qu'elle alla s'agenouiller, ce fut vers son doux visage qu'elle leva ses yeux suppliants. Que demandait-elle ainsi? Elle ne le savait pas exactement. Elle souffrait et elle implorait le secours. Peu à peu, quelque apaisement descendit en elle. Le compatissant regard de Sainte Élisabeth versait un réconfort sur son jeune cœur bouleversé par un mystérieux émoi. Elle joignit les mains en murmurant avec ferveur « Ma chère sainte, priez pour lui, qu'il soit heureux, que sa chère âme surtout soit sauvée. Son bonheur et mon bonheur, je sens que je l'achèterai avec joie par une grande souffrance. » Elle se releva et sortit du petit temple. L'heure s'avançait, on devait s'étonner là-bas de son absence. Mais elle s'arrêta encore sur le péristyle. De nouveau, le souvenir de ce qui s'était passé là l'étreignait, à la fois douloureux et si doux. Combien, depuis lors, il avait su délicatement lui témoigner sa reconnaissance. Car elle avait compris qu'il ne la remerciait pas seulement de son dévouement pour son fils, mais plus encore peut-être de son intervention en cette minute tragique qui allait décider de son éternité. C'était par reconnaissance qu'il entourait d'attentions chevaleresques, par reconnaissance qu'il se montrait si empressé à prévenir tous ses désirs charitables, par reconnaissance encore qu'il mettait tant de charmes pénétrants dans son regard et dans sa voix, qu'il les adoucissait si bien pour elle comme autrefois pour Caroli. Elle lui avait fait du bien, il le lui avait dit plusieurs fois. Ne devait-elle pas remercier Dieu d'avoir été choisie comme l'instrument, bien humble et bien imparfait, dont il s'était servi pour donner un peu de paix à cette âme révoltée? Maintenant, une autre continuerait la tâche. L'épouse aimée pourrait beaucoup, si elle savait comprendre, cette âme vibrante sous son apparence altière et froide, ce cœur qui avait, uni à une virile énergie, des délicatesses presque féminines et d'immenses ressources d'affection, comme l'avait prouvé son ardent amour paternel. Devant l'esprit de Myrtot se dessina la mince silhouette de Madame de Saulier, son fin visage souriant et spirituel, au regard mobile, souvent moqueur. Le comprendra-t-elle? Le rendra-t-elle heureux? Un étonnement lui demeurait que le prince eût choisi cette jeune femme. Et pourtant, Irène avait raison, ceci expliquait son séjour à Paris et le changement qui avait fait du père désespéré un homme jeune et charmeur comme autrefois. Elle le revoyait, là, assise au bas de ses degrés, près de la chaise longue de son fils. Combien il était sombre et froid! Et cette volonté tyrannique dont Myrtot, comme les autres, avait senti souvent le poids. Et cette scène à propos de Miklos. Tous les souvenirs de ces 18 mois lui revenaient, tour à tour poignants et doux, tandis que les larmes montaient lentement à ses yeux. Et, de nouveau, elle oubliait l'heure, elle laissait s'écouler les minutes dans ce retour vers le passé. Le soleil, déjà bas sur l'horizon, enveloppait d'une clarté rose la jeune fille vêtue de blanc qui s'appuyait à la colonne de marbre, évoquant, dans sa pure beauté grecque, la pensée d'une jeune prêtresse de Minerve Athénée. Dans les grandes prunelles noires flottait une souffrance profonde, mais aussi une calme résignation. Un cerne léger s'était formé sous les yeux de Myrtot et sa tête charmante se penchait un peu, comme si elle avait peine à supporter la lourde chevelure teintée d'or fauve par les rayons du soleil. Aux alentours, le sol était couvert d'un épais gazon qui étouffait le bruit des pas. Comme Myrtot l'avait fait un jour, quelqu'un apparaissait inopinément au tournant du temps. Mais cette fois, c'était lui. Elle eut un brusque mouvement et pâlit encore davantage. Déjà, il escaladait les degrés et s'avançait vers elle. « Myrtot, que vous arrive-t-il? Nous étions inquiets là-bas, je suis parti à votre recherche. » Il s'interrompit et posa son regard sur celui de sa cousine. « Vous avez pleuré, Myrtot, qu'avez-vous ? » Il se penchait et lui prenait la main en faisant ses questions d'une voix anxieuse. « Oh, ce n'est rien, quelques idées noires » murmura-t-elle en essayant de sourire. Mais ce n'était pas le si joli, si rayonnant sourire habituel. Celui-là était triste, presque navrant. « Des idées noires ? Lesquelles ? Dites, Myrtot !» Elle baissa les yeux pour éviter ce regard doucement impérieux et dit, d'une voix un peu tremblante, « Cela ne vaut pas la peine, non, réellement, Arpade. Vous ne voulez pas me dire ce qui vous tourmente? N'avez-vous pas confiance en moi, Myrtot? Cette confiance, je l'ai cependant envers vous. » Les lèvres pâlies de Myrtot eurent une légère crispation. Il y avait pourtant quelque chose qui lui avait caché comme aux autres. « Non, vous ne voulez pas, Myrtot ?» Elle secoua négativement la tête, incapable de parler, car sa gorge se serrait soudain. Les traits du prince Mixa se contractèrent un peu, il demeura un instant silencieux, considérant le pâle visage environné d'une lueur rosée. Puis il dit tout à coup, d'une voix où passaient des vibrations altérées, « Ma mère, vous a-t-elle fait une communication relative à des demandes en mariage ?»« Oui, dit-elle d'un ton lassé, je regrette vraiment que le comte Mathias et M. Donaz aient songé à moi. Je suis confuse d'être l'objet d'un tel désintéressement et de ne pouvoir répondre à leurs demandes que par un refus. »« Un refus ? » murmura-t-il. Sa physionomie se détendait, son regard inquiet et assombri s'éclairait soudain. « Vous n'avez pas réfléchi, vous avez dit non, ainsi, tout de suite ?»« Oh oui » dit-elle avec le même accent de lassitude. « Je n'ai pas du tout l'idée de me marier. Non, vraiment, je n'ai pas hésité un instant et je n'ai aucun regret. »« Myrtot, écoutez-moi. » Elle leva les yeux et le vit en proie à une émotion difficilement contenue. « Je devais vous parler demain, après avoir connu votre réponse à ces demandes. Mais puisque je sais dès maintenant, je puis vous dire qu'un autre sollicite le bonheur de devenir votre époux, un autre qui vous aime, il ose l'assurer, plus que quiconque au monde. Vous avez été pour lui le rayon de lumière, la discrète consolatrice, mais il voulait plus que votre compassion. Il s'est efforcé de redevenir jeune pour ne pas offrir à vos 18 ans un fiancé vieilli moralement et physiquement. Voilà pourquoi il s'est imposé cet exil de plusieurs mois, loin de vous, afin de vous montrer un prince Mixa transformé. Et si j'ai attendu si longtemps avant de vous parler ainsi, Myrtot, si j'ai enduré les plus douloureuses angoisses en laissant d'autres solliciter avant moi votre main, c'est que je voulais vous permettre de comparer, de choisir à votre gré, c'est que je ne voulais pas m'imposer à votre inexpérience de la vie, à votre cœur si admirablement charitable et capable par compassion pour une âme souffrante d'accomplir un sacrifice. Les yeux baissés, ses longs cils frôlant sa joue devenue toute rose, elle écoutait, se demandant si elle rêvait, si c'était bien sa voix chaude et vibrante qui prononçait ces paroles dont chacune faisait tressaillir son cœur. « Maintenant, Myrto, dites-moi si vous voulez devenir ma femme. Dites-le-moi en toute indépendance. Je ne veux pas de pitié, pas de sacrifice, comprenez-moi bien. »
Arpade !
D'autres paroles n'auraient pu sortir de sa gorge serrée par l'émotion intense, le bonheur inexprimable qui l'envahissait soudain, mais ses grands yeux levés vers le prince lui révélaient, mieux que les mots n'eussent pu le faire, combien le cœur de Myrto lui appartenait sans réserve.
« Merci, Myrto, ma Myrto !»
Il posa longuement ses lèvres sur les mains de la jeune fille et ils demeurèrent quelques instants silencieux, trop radieusement émus pour prononcer une parole.
« Myrto, ma lumière !»
Il avait le même accent fervent que Madame Eliani lorsqu'elle avait appelé ainsi sa fille la veille de sa mort.